Nous lirons d'abord dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et nous lirons maintenant dans l'évangile de Marc au chapitre 12, verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Le temple fraîchement reconstruit à ce moment de Jérusalem était beau. On en a aujourd'hui une belle maquette que nous connaissons par une reproduction photographique surtout. Il était beau. C'était le deuxième temple remanié. Non pas le troisième, mais le second remanié par Hérode. Le temple de Salomon, le premier, avait été consacré en 965 avant notre ère. Puis, ce temple ayant été détruit par Nebuchadnezzar, fut reconstruit sur l'ordre de Dieu par Zorobabel et consacré en 515 avant notre ère. Et là, c'était le temple d'Hérode qui avait été commencé dans ses transformations et ses embellissements 13 années avant le commencement de notre ère. Et il fut détruit, ce temple, sa durée fut courte, hein, fut détruit en l'an 70 lors de l'expédition du général romain Titus. Le temple lui-même était fermé par deux portes d'or à deux battants, mais le lieu très saint, je pense vous savez ce qu'est ce lieu très saint, le dernier tiers du rectangle qu'était le tabernacle lui-même, le dernier tiers, le lieu très saint, fermé par un rideau, était vide. L'arche avait disparu, en effet, lors de la captivité. À l'extérieur du bâtiment, comme à l'intérieur d'ailleurs, l'or brillait. Et l'on comprend l'admiration des disciples. Cette satisfaction qu'ils ne peuvent pas contenir et qu'ils expriment, satisfaction des yeux, fierté compréhensible, bien naturel, de leur part. Quelle pierre, quelle construction, que c'est beau, que c'est imposant, Et c'est cela que Dieu nous a donné. C'est à quoi, c'est à cela que nous sommes très attachés. Il y a, vous voyez, en eux, en ces disciples, qui sont sensibles toujours à ce qui impressionne la vue, il y a toujours la pensée de s'arrêter à ce qui est précaire. Et ils n'ont pas encore pu diriger vraiment les pensées de leur cœur vers l'éternité, vers les choses éternelles. Très souvent, leur Seigneur s'était forcé de les détacher leurs yeux des choses du monde sensible, des choses qui étaient là, même si ces choses étaient signifiantes, comme l'était le temple de Jérusalem. Il était signifiant, il avait sa part dans les desseins de Dieu, n'est pas ce qu'il faut contester, n'est-ce pas? Mais son temps arrivait à la fin. Détacher donc les yeux de ce qui est visible et les porter vers l'invisible. Même s'il y a toujours sur la terre des choses à considérer, mais elles ne sont considérées, ces choses, elles ne sont d'ailleurs choisies que par le discernement en elles de leur valeur éternelle, de leur signification éternelle. Et Jésus fait une réponse à ces paroles admiratives des disciples. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Voilà une parole qui refroidit, qui glace pour ces hommes. Il ne restera pas pierre sur pierre. Nous sommes en train d'admirer cette belle construction. Et notre Seigneur nous dit, eh bien, bientôt, personne ne la verra plus. Il n'y aura plus rien, et elle sera démolie, pierre sur pierre, renversée, ce qui évoque une opération qui va bousculer, une opération qui ne va pas être un changement harmonieux, une destruction, mais une destruction rationnelle. Mais qui va être vraiment un bouleversement. Le temple doit périr. C'est ce qu'exprime la réponse de Jésus. Et pourquoi le temple doit-il périr? Pourquoi n'aurait-il pas été conservé, bien qu'appartenant, étant une pièce maîtresse des dessein de Dieu pour, dans le cadre de l'ancienne dispensation de la loi? Eh bien, il doit périr, parce que les desseins de Dieu, certes, l'exigent à ce moment, mais selon un principe immuable. Un principe immuable qui est applicable à tout, mes amis, et que nous devons nous bien comprendre et connaître. Ce principe est: ce qui n'est pas vrai périra. Et vrai dans le sens que prend ce terme dans toute la révélation de Dieu. Toute la révélation de Dieu est là pour nous apprendre ce qu'est la vérité, ce qui est vrai, la discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est saint de ce qui est profane. Il y a un discernement qui ne trompe pas. Il y a tout un enseignement dans la Bible qui nous guide vers ce discernement. Ce qui n'est pas vrai périra. Seul ce qui est vrai subsistera éternellement. Le vrai subsistera. Le vrai ne peut pas être détruit. Ce qui n'est pas vrai, selon Dieu, périra. Et nous avons... par exemple, ces versets, l'homme qui juge selon la vérité vivra, dit le prophète Ézéchiel. L'homme qui juge selon la vérité vivra. Vivra, ce qui veut dire vivra éternellement. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Et s'il vient à la lumière, c'est pour être emporté. jusque dans les temps éternels. Et puis le Seigneur, je vous rappelle cette parole du Seigneur Jésus, sanctifie-les par ta vérité. Mets-les à part pour la destination éternelle par ta vérité, par l'œuvre de ta vérité. Ainsi, la chose donc est patente, seul ce qui est vrai subsistera éternellement. Ce qui frappe les yeux n'est pas nécessairement vrai. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, nous l'avons lu dans les Colossiens, nous conseille de nous affectionner, de nous attacher aux choses d'en haut. Il les appelle ainsi, les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses qui viennent de Dieu, les choses qui sont révélées par Dieu, les choses qui nous sont données par Dieu, nous affectionner à ces choses et, précisément, supprimer toute affection, tout attachement aux choses d'en bas, qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas données par Dieu, et qui périront, et qui appartiennent à ce monde ébranlable. C'est la distinction entre les choses ébranlables qui vont être ébranlées et les choses inébranlables qui subsistent à toujours. Or, le temple d'Hérode n'était pas vrai. Il était de ces choses qui n'ont pas pour elles le vrai, la vérité, telle que nous l'avons définie. Il n'était pas vrai parce que il avait été construit par un prince fastueux et riche, dans un but politique. Politique. La politique ne fera rien de vrai, vous savez. Rien de durable, n'est-ce pas? Dans un but politique, pour plaire aux Juifs, pour se concilier les Juifs. Il y a toujours, n'est-ce pas, deux moyens d'agir en politique vis-à-vis des masses. C'est soit la rigueur, soit alors la démagogie, tout ce qui peut attirer les masses à soi, et quelquefois on emploie les deux, ensemble. Il n'y a pas l'arche, il n'y a pas la présence de Dieu, et le culte qui s'y déroulait n'avait aucune vérité. Non seulement il n'y a pas la présence de Dieu, mais le culte est devenu formaliste, le culte est empreint de toutes les conséquences de cette tradition que les chefs des Juifs s'étaient donnée. Rappelons-nous ces paroles, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» Il y avait donc là l'hypocrisie dans le culte, l'hypocrisie dans les cœurs, et tout ce qui se faisait là n'était pas vrai. Pour toutes ces raisons, le temple d'Hérode n'était pas vrai. Il ne pouvait que périr. Mais, alors, nous avons dans le texte de Marc que nous avons lu un contraste merveilleux et frappant, qui nous met bien sur la voie, précisément, des choses vers lesquelles nous sommes conviés à nous tourner nos regards, auxquelles nous sommes invités à nous attacher, les choses de Dieu, les choses d'en haut. Et vous allez voir comme c'est simple, souvent, de s'attacher aux choses d'en haut. Jésus, lui, avait un autre sujet d'admiration. Avant que les disciples ne lui aient proposé de considérer, de contempler les belles constructions, les belles pierres du temple, Jésus, lui, s'était donné un autre objet d'admiration. Et cet objet d'admiration, c'était le quart de sou. Le quart de sou de cette veuve, de cette pauvre veuve. Des gens venaient, et chose extraordinaire, Jésus s'était mis là, en face du trésor, du lieu où l'on apportait les offrandes. en archant. Il s'était mis là et il regardait. Oh, ce n'était pas l'intérêt, pas qui le faisait regarder, l'intérêt humain, mais un autre intérêt. Et des gens mettaient beaucoup. Cela sonnait dans le coffre. Il mettait vraiment du poids, beaucoup d'argent, de l'or même. Ils étaient généreux avec l'œuvre de Dieu. Et voici une pauvre femme qui vient et que Jésus n'ignore pas. Il connaît toute sa vie. Il sait qu'elle est veuve. Il sait ce qu'elle a dans sa maison. Il sait ce qu'elle a dans sa maison. Elle n'a pas autre chose que ce quart de sou. Elle n'a que ça. Elle n'a que ça pour vivre. Rien. Elle va tout donner. Elle va vraiment, là, se confier entièrement, elle, à Dieu. Quel que soit le temple, et ce que nous avons dit du temple, elle considère son Dieu. Elle, son cœur, est entièrement dévoué, selon le mot caractéristique, dévoué à son Dieu. Alors, elle vient et elle met ce quart de sou. Oh, ça n'a pas fait grand bruit dans le coffre. Juste un petit tintement, un tout petit tintement, un quart de sou. C'était bien peu de choses. En valeur intrinsèque, c'était infime, négligeable. Qu'allaient faire les sacrificateurs avec ce quart de sou? Qu'allaient-ils faire avec ça? On ne pouvait rien faire, vraiment. Avec ça, ça n'avait en valeur intrinsèque que rien, une valeur insignifiante. Mais en valeur d'esprit, mes amis, en valeur d'esprit, c'était énorme. Aux yeux de Jésus, c'est un don magnifique. En valeur d'esprit, ce don a une valeur d'esprit. Voilà une femme, un cœur, qui vraiment est attachée aux choses d'en haut, est attachée à ce que Dieu voit, attachée à ce que Dieu aime, à ce que Dieu veut qu'on lui apporte tout. Véritablement tout lui donner, tout lui remettre, se confier à lui entièrement, ça c'est une valeur d'esprit. Mais pour le manifester, il n'y a qu'un petit quart de sou pour manifester de si grandes choses. Si peu de choses dans le matériel, si peu de choses pour signifier une si grande chose. Et c'était une grande chose au regard de Christ. Au regard de Dieu, petit, terriblement petit, était le temple d'Hérode. Méprisable tout cela, car la vérité n'y était plus. Méprisable. Grande était la veuve, et son don impérissable était cette œuvre, si minime, apparemment, qu'elle accomplissait maintenant. Une œuvre impérissable. Elle mettait un quart de sou, et voici que des pièces d'or, des trésors, descendaient dans le ciel, et se mettaient, s'inscrivaient à son compte, à elle, dans le ciel. Des trésors dans le ciel, pour un quart de sou, parce que c'était tout son cœur, c'était toute sa vie qui se suspendait à la grâce de Dieu. Suspendue à la grâce de Dieu. Le Seigneur dira, amassez-vous des trésors dans le ciel. Vous voyez comment on peut s'amasser des trésors dans le ciel. Et puis, nous avons aussi dans l'Ancien Testament, par l'Éternel, seront pesées toutes les actions, pesées par une balance particulière. Cette balance, c'est celle de Dieu, et qui va y introduire le fléau de cette balance jusqu'au fond des cœurs. C'est là, au fond des cœurs, qu'il va peser. Il va peser les actions, non pour ce qu'elles sont extérieurement, non pour ce qui les représente, peut-être en gestes, en dons ou d'autres manières, d'une façon visible, mais Dieu va peser les actions au fond des cœurs. C'est-à-dire, ce qui a motiver les actions, les œuvres, ce qui les a motivés. Il va aller au fond des cœurs, mettre sa balance, et c'est là qu'il va peser les actions. Cela est dans 1 Samuel 2:3. Par l'Éternel sont pesées toutes les actions. L'action extérieure, qui est visible en ce monde, cela, c'est le témoignage. Ce n'est pas indifférent. Il ne faut pas négliger, il faut savoir penser à tout, à toute chose. Certes, il y a des actions qui ont besoin de se faire visibles pour le monde. C'est le témoignage. Mais attention, jamais ces actions, cependant, ne seront empreintes d'hypocrisie, bien sûr. Et il y a l'action intérieure. L'action intérieure, dans l'être intérieur, dans le cœur humain, ce cœur qui est ouvert, tout grand, à l'Esprit de Dieu, où il pénètre. Alors, c'est cette action-là qui sera pesée, l'action de foi. Et cette action de foi est aussi une action de l'Esprit de l'homme et une action de l'Esprit de Dieu. Car chaque fois qu'il y a une action de foi réelle, cette action a été suggérée par l'Esprit de Dieu. Elle a été guidée, elle a été conçue même par Dieu. Elle a été guidée par l'Esprit de Dieu. Elle a pénétré dans l'Esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. Et elle s'accomplit par foi d'obéissance, par foi fidèle. Foi et fidélité vont d'ailleurs ensemble, et c'est dans le grec le même mot. Et puis, ce que faisait cette petite veuve avait aussi la bonne odeur de l'amour. Donc, la bonne odeur de Christ, si vous voulez, la bonne odeur de l'amour. Mais l'admiration des disciples s'était portée sur la beauté matérielle du temple. Vous savez, avant la Pentecôte, et on peut l'étudier d'autre manière, les disciples, je parle même des 12, avaient beaucoup, beaucoup à apprendre, tellement à apprendre. Or, il fallait non seulement qu'ils apprennent, mais qu'ils soient changés. Et véritablement, à la Pentecôte, ces hommes sont transformés. Ils avaient beaucoup à apprendre, comme nous. Nous avons encore à apprendre, chers amis. Et la parole de Dieu est là pour nous rendre sensibles à l'Esprit divin et pour nous amener à comprendre, pour apprendre, pour faire l'expérience de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de justice. La parole de justice, la parole qui accomplit cette justice qui est celle de Dieu. Alors, bien sûr, nous avons, nous, à nous consulter, à nous interroger pour savoir par quoi nos regards sont essentiellement attirés, par quoi nos pensées sont retenues, vers quoi nos aspirations se dirigent. Nous avons à nous interroger. Est-ce la beauté matérielle? Est-ce l'aspect de puissance qui se manifeste dans les choses de l'existence, dans le monde sensible, ou est-ce aussi l'extérieur du culte? Mes amis, nous jugeons par l'extérieur. L'extérieur du culte. Il y avait pourtant cette petite église de Philadelphie dont le Seigneur dit « Je sais que tu es pauvre, tu es pauvre. » Il n'y avait pas d'extérieur, aucun extérieur à cette petite église. Mais pourtant, tu es riche. Voyez-vous le contraste? Tu es pauvre, c'est ce qu'on voit. Peut-être beaucoup te délaissent et te dédaignent, parce qu'il n'y a pas d'extérieur, tu n'as pas d'apparence, pas d'extérieur, ni sans doute en nombre de fidèles, ni en lieu de réunion, ni même peut-être en richesse d'expression. Tu es pauvre. Et cependant, le Seigneur qui regarde un à un, les membres qui les sondent, tu es riche, je sais que tu es riche. Ainsi, est-ce que nous sommes attirés par l'extérieur, et notamment l'extérieur du culte. Méfions-nous de cela, mes amis. De ne pas dire « Ah, il y a là vraiment un culte magnifique parce qu'il y avait beaucoup de monde. » Et parce qu'il y a eu un certain déploiement, peut-être. Non, ce n'est pas cela. Il faut regarder. L'homme, est-il écrit, regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà toute la différence. L'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Alors, nous, est-ce que nous regardons comme les disciples ce temple imposant et étincelant d'Hérode, tout ce qui fait bien dans les apparences, tout ce qui donne l'impression de bonne assise, d'importance, de puissance. Est-ce que nous jugeons du christianisme là-dessus? Mes amis, le christianisme ne veut pas de ces choses, ne veut pas. Et c'est pourquoi je suis réticent sur bien des nouvelles qu'on nous apporte. Je suis réticent, je ne veux pas dire que je méprise, je ne veux pas dire que je juge, mais je suis réticent quant à moi. Je ne porte pas mon admiration, moi, sur les foules réunies, sur les grands bâtiments. Non, non, l'Éternel, lui, regarde au cœur. Et nous avons, nous, à regarder à notre cœur, à veiller sur les sentiments de notre cœur, sur ce qui vraiment se produit en nous, dans notre cœur. Le temple, pourtant le temple, le vrai temple, le temple vivant, Jésus l'avait déclaré à ses apôtres, et il n'avait pas à ce moment-là retenu. Il nous est dit d'ailleurs dans le texte de Jean qu'ils se souviendront de ça, mais après la Pentecôte. Après la Pentecôte, quand l'Esprit sera venu. Voyez le rôle de l'Esprit. Mais il n'avait pas retenu que Jésus s'était désigné, lui, comme le temple. Il était là, le temple vivant, lui, Jésus, lui, porteur de l'éternité, lui, ouverture du royaume de Dieu. Il est là, lui, qui apporte, qui est le révélateur de l'amour parfait de Dieu. Lui, en qui nous pouvons prier Dieu avec assurance qu'il entend. Mes amis, voilà souvent ce qui fait notre malheur. Nous allons vers les choses, nous nous attachons aux choses qui ne sont pas vraies et nous ne voyons pas suffisamment celles qui sont vraies, qui sont véritablement de Dieu, celles sur lesquelles Dieu a mis son sceau. Et nous conclurons en disant que tout ce qui n'est pas uni à Christ pour recevoir de lui la sève, la sève vivante, et cette sève a tant de fonctions, elle a toutes les fonctions de la vie. Toutes les fonctions de la vie, elle a notamment cette fonction d'informer, elle informe. Elle apporte la pensée, ce qui est appelé la pensée de Christ. Tout ce qui n'est pas uni à Dieu, à Christ, par le lien de l'Esprit, périra dans le naufrage universel. Mais la foi, l'amour, l'obéissance produisent des fruits éternels. Et c'est par cette foi, par cet amour et par cette obéissance, ces trois choses ensemble, c'est par là que nous, il nous arrivera de mettre le quart de sou dans le trésor de Dieu, de mettre le quart de sou. Si nous n'avons que le quart de sou, nous le mettrons. Mais nous y mettrons donc tout notre cœur. Nous y mettrons toute notre ardeur. Et nous offrirons nous-mêmes, comme dit l'apôtre Paul dans les Romains, nous offrirons nous-mêmes, nous offrirons nos corps en sacrifice nécessaire, agréable à Dieu. Amen.